Spotkania europejskie.
Rozumienie da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Quel est le point commun entre le Brexit au Royaume-Uni, les gilets jaunes en France et l'éruption de Matteo Salvini en Italie? Un même malaise face à une accélération de la marche d'un monde devenu incompréhensible, un sentiment de déclassement de la part d'une partie de la population qui se vit exclue de la mondialisation et une tentation de repli nationaliste et identitaire. Et quelle est la part de responsabilité de l'Europe dans cette lente dégradation de la perception d'un destin commun? Je vous présente les invités qui nous ont rejoints autour des micros de Carrefour de l'Europe pour tenter de décrypter ce profond malaise qui n'est pas seulement européen. Bonjour Gilles Finkenstein.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la Fondation Jean Jaurès. Il y a forcément un président. Et vous avez coédité avec les éditions de l'Aube un petit ouvrage, brève introduction au populisme. Il a été écrit par Kasmunde. Qui est Kasmunde?
C'est un universitaire spécialiste de la question du populisme, et je crois l'un des grands intérêts de cet ouvrage, c'est qu'il est extrêmement pédagogique pour essayer de définir ce mot dont tout le monde parle et que l'on définit trop rarement.
Et dont évidemment on va parler au cours de l'émission. Dominique Régnier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la Fondation Fondapol. Alors la Fondation Jean Jaurès, évidemment par définition plutôt à gauche, la Fondation Fondapol plus à droite.
La Fondation pour l'innovation politique est une fondation qui se présente comme libérale, progressiste et européenne. Donc c'est sur ces valeurs, le libéralisme étant assimilé à la droite, ce qui souvent m'étonne.
Votre dernier livre, il est paru en 2013, s'appelait « Les nouveaux populistes » et la Fondation Fondapol a concocté une vaste enquête européenne. Où va la démocratie? C'est sorti l'an dernier chez Plomb, c'est ça? C'est encore disponible?
Absolument, c'est disponible, oui, c'est dans 26 pays. Juste cette petite remarque, sur les 26 pays, il y a les États-Unis, mais aussi la Suisse et la Norvège. Les autres pays sont des pays de l'Union européenne. On voulait essayer de comparer la situation de la démocratie dans des pays membres de l'Union européenne, d'autres européens mais pas membres de l'Union européenne, et puis les États-Unis.
Et on verra évidemment au cours de cette émission qu'il y a des différences, pour ne pas dire des fractures, entre le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest. Giuliano D'Ampoli, bonjour, buongiorno.
Bonjour.
Vous êtes essayiste, président du think tank Volta. Alors, think tank en italien, ça se dirait comment?
Think tank.
Alors, vous, votre prochain livre va sortir dans quelques semaines, et ça chez Lattès, les ingénieurs du chaos. Qui sont ces ingénieurs du chaos?
Ce sont, disons, les spin doctors du populisme. Ce sont des gens qui travaillent derrière les leaders et qui sont des personnages assez intéressants, parce qu'on a souvent l'impression, et même plus que l'impression, que ces mouvements populistes sont un peu tout et le contraire de tout, un peu n'importe quoi, un peu carnavalesque et tout ça. Mais il y a souvent derrière un travail de communication, d'utilisation notamment évidemment des réseaux sociaux, etc., qui commencent à être très sophistiqués. Et donc j'ai essayé de travailler un peu sur ces personnages et sur ces histoires.
Alors Gilles Finkenstein, j'ai évoqué dans mon introduction les Gilets jaunes, le Brexit, Matteo Salvini, j'aurais pu rajouter Viktor Orban ou encore le PiS, le parti Droit et Justice au pouvoir en Pologne. Ces mouvements, ces partis, ces gouvernements, on a tendance de les réunir sous un seul mot un peu fourre-tout, celui de populisme. On a raison?
On a raison et on a tort, parce que à force d'utiliser ce mot-là, il finit par obscurcir davantage que par éclairer, et c'est souvent trop souvent un adjectif disqualificatif plus qu'un adjectif qualificatif. Donc il faut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Il y a malgré tout des traits communs à ces différentes formes de populisme. Il y a souvent un style qui est un style qui manie une certaine forme de violence. Il y a souvent l'idée d'opposer le peuple aux élites ou à l'élite, avec l'idée que le peuple est un tout. Il y a souvent l'idée de vouloir remplacer le clivage gauche-droite par ce clivage entre le peuple et les élites. Donc il y a un certain nombre de traits communs malgré tout.
Dominique Régnier, est-ce que le populisme est un phénomène nouveau, récent ou non?
C'est pas un phénomène nouveau, je dirais par définition, parce que c'est un phénomène de crise. C'est une forme politique qui apparaît dans les périodes de déconstruction des systèmes. À l'interface de la fin d'un monde et du début d'un autre, dans des phases qu'on pourrait qualifier, c'est parfois présentant ces termes de liquide à la place des phases solides qui avaient pu précéder, et donc c'est pas nouveau, et c'est aussi pour ça que c'est assez confus, parce que c'est une doctrine de confusion dans des moments où les idéologies, les systèmes de représentation, eh bien, sont les paradigmes sont affaiblis, se deviennent moins performants, sont délaissés, et on ne sait pas très bien vers quoi on va. Donc, on va s'accrocher à des éléments clés par rapport à ce qu'a dit Gilles Finkelstein, qui me paraît très juste comme caractéristique commune quand même à ces mouvements. On peut ajouter un élément qui, à mon avis, est très problématique, qui est l'appel au peuple. Singulièrement problématique parce que c'est aussi l'élément clé de la démocratie. Et c'est pourquoi, dans le phénomène populiste, on peut y reconnaître une interprétation de la démocratie. Et c'est pourquoi il n'est pas simple de disqualifier ce phénomène, parce que spontanément, il peut donner le sentiment de reposer sur un mécanisme qui est incontestable, hein, et qui est bien sûr le mécanisme de type démocratique. Je termine en ajoutant que, outre ce qu'on pourrait convoquer, comme il y a quand même le culte du chef, de la personnalité, il est souvent très développé, ajouter aussi le fait que c'est une doctrine qui spontanément, y compris parce que c'est l'appel au peuple, va remettre en cause les phénomènes représentatifs et faire l'apologie plutôt des formes directes de consultation et de décision. On le retrouve vraiment cela à droite et à gauche. Et puis peut-être dernière remarque sur la différence sommaire entre le peuple et les élites. Gilles Finkelstein le disait aussi à l'instant. Tout à fait important, ça. Mais avec ça c'est une coupe horizontale. Il y a aussi une coupe verticale, qui est le peuple d'ici et le peuple d'ailleurs, qui fait que...
C'est-à-dire les nationaux et les étrangers.
Les étrangers, et ça c'est le populisme, on va dire, identitaire ou de droite, mais c'est celui qui a le plus grand succès électoral. C'est quand vous avez cette double coupe, la coupe verticale, les élites mondialisées, globalisées, corrompues, incompétentes, qui nous trompent, nous exploitent, nous mentent, etc. Et la coupe verticale, qui exclut les non-nationaux, les vrais nationaux d'un côté, les non-nationaux de l'autre. Là, c'est là que vous avez, à l'intersection, le rendement électoral le plus élevé.
Juste une phrase.
Un mot.
Une phrase, ouais, pour compléter. Je crois que ce qui rassemble cette coupe d'ici et cette coupe d'ailleurs, c'est la recherche et la construction d'un bouc émissaire qui est le mode d'explication des malheurs du peuple, et qui est une forme de pensée magique.
Giuliano D'Ampoli, on a toujours tendance à dire que l'Italie, c'est le laboratoire un peu de l'Europe, et notamment le laboratoire du populisme, avec un mouvement qui est au pouvoir aujourd'hui en Italie, qui s'appelle le mouvement 5 étoiles.
Oui, l'Italie est un peu le Silicon Valley du populisme depuis assez longtemps, parce que ça a commencé effectivement... on parlait du rejet des élites, de la fracture entre le peuple et les élites. Ce mouvement très violent même de rejet des élites a commencé à se produire en Italie au début des années 90. Déjà, d'une certaine façon, l'enquête même propre qui a pratiquement décapité toute la classe politique italienne et avait un côté populiste. C'était les juges au nom du peuple qui balayaient l'élite politique, et à partir de ce moment-là, notre pays a été à la recherche constamment d'élites qui ne soient pas la classe politique. Et donc on a eu la société civile, on a eu des gouvernements technocratiques, on a eu bien évidemment Berlusconi, qui a quand même été un très grand précurseur et innovateur politique, si on voit ce qui s'est passé après avec Trump. Et aujourd'hui, on a effectivement un populisme à l'état presque pur. C'est assez intéressant. La pointe émergente de l'iceberg, ce qui est perçu à l'extérieur, c'est surtout Salvini, qui a une personnalité forte. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'en Italie, au moment des élections, Salvini a fait 17%. Et il est aujourd'hui au pouvoir parce qu'il y a une autre force politique qui s'appelle le Mouvement 5 étoiles, qui a fait 33% et qui est du populisme à l'état pur. Hein. Avec une composante...
C'est-à-dire, quand on dit du populisme à l'état pur, ça veut dire...
C'est-à-dire, leur slogan, c'est... bon, ils avaient un leader qui était un comique. Leur slogan, c'était « Vaffanculo », donc « Allez vous faire voir », disons, pour le dire poliment, adressé à toutes les élites. Et en plus, ce qui est quand même très intéressant, il se base, à mon avis, c'est un peu la traduction politique de Google et de Facebook, si vous voulez. C'est-à-dire, ils ont un mode de fonctionnement qui est très très intéressant, parce que ce n'est plus un mode de fonctionnement idéologique, mais c'est simplement une réponse, ils se proposent presque comme un instrument de marketing. Ils disent, de toute façon, la démocratie représentative s'est dépassée. Nous sommes déjà l'instrument d'une démocratie directe. Et donc, nous n'avons pas véritablement de position à nous. Nous écoutons, nous avons des instruments pour écouter le peuple, justement, et là, c'est surtout sur Internet, et nous portons vos demandes. Et donc là, ils sont capables aussi d'additionner des demandes complètement différentes et souvent même contradictoires, mais toutes portées quand même par une rage et par une colère justement adressée contre les élites. Et c'est sur cette plateforme-là qu'ils sont devenus le principal parti italien. Et ils ont été le vecteur qui a permis à Salvini aujourd'hui d'être au pouvoir et peut-être demain de dominer complètement la scène politique.
Même si, entre parenthèses, les sondages donnent aujourd'hui...
Justement.
Ça a changé, hein, c'est-à-dire le mouvement
s'est changé. On prévoit aujourd'hui, dans les sondages, Salvini est donné au-dessus de 30%, entre 30 et 35%, après c'est difficile encore à calculer, et le mouvement 5 étoiles est en baisse, mais justement parce que il a été le vecteur, disons, presque sans contenu, par contre d'un contenu très fort, national, souverainiste, disons, relativement classique, ou disons, il y a d'autres exemples en Europe de la position de Salvini, mais cette position-là, qui aujourd'hui a écrasé le mouvement 5 étoiles, d'une certaine façon, même rhétoriquement, justement, elle n'aurait pas pu s'affirmer s'il n'y avait pas eu cette sorte de parti algorithme qui lui a permis de d'arriver au pouvoir.
Alors, Gilles Vicente, justement, dans le prolongement de ce que vient de dire Giuliano D'Ampoli, est-ce que le populisme est un phénomène idéologique ou opportuniste ? Est-ce qu'il y a une colonne vertébrale, un corpus idéologique au populisme ?
Alors, encore une fois, il n'y a pas un populisme, mais il y a des populismes. Celui de Matteo Salvini est assez structuré idéologiquement. C'est beaucoup moins le cas, évidemment, de celui de 5 étoiles. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça s'inscrit dans un nouvel âge de la démocratie. Dominique Régnier, tout à l'heure, le qualifiait de liquide. La proposition que je fais, c'est de le qualifier de gazeux. Je voudrais expliquer juste en un mot en quoi, parce que ça rejoint ce que disait Giuliano D'Ampoli. On a eu, je crois, au début des années 80, en tout cas pour la France, une démocratie à l'état solide. C'est-à-dire, vous aviez un clivage central qui structurait les débats, qui guidait le comportement des électeurs, qui était fidèle chacun à un camp. Et puis, au début des années 2000, on est passé d'une démocratie solide à une démocratie liquide. C'est-à-dire qui prend le clivage gauche-droite est là, mais il est contesté, il est relativisé, mais c'est lui qui continue à être, au final, le clivage central, même si les comportements électoraux sont beaucoup plus volatiles. Je crois qu'en 2017, avec l'élection présidentielle, on est entré dans une démocratie à l'état gazeux, et je crois que l'Italie y est aussi, qui a trois propriétés. C'est un état informe, et c'est un élément très important. C'est-à-dire que il y a une multitude de clivages avec une grande difficulté pour les citoyens de se repérer. Ce faisant, c'est un état qui est extrêmement instable. La mobilité électorale est devenue considérable jusque dans les derniers jours, dans tous les pays, dans les derniers jours d'une campagne, les mouvements peuvent continuer à être considérables. Et enfin, c'est un état qui est explosif, retour de la violence, montée des populismes.
Dominique Régnier, est-ce qu'on peut dire que les classes moyennes sont le terreau des mouvements populistes ? Alors, je l'ai dit un peu dans mon introduction, parce que il y a une frustration liée à un sentiment de déclassement social, un sentiment d'être victime de la mondialisation, on est passé à côté.
Disons que c'est un... les classes populaires sont la grande clientèle des partis populistes et des mouvements populistes. C'est lorsque ce populisme atteint les classes moyennes que la situation devient périlleuse et que les bascules électorales se font. On en est là quand même aujourd'hui en Europe. Hein. Et c'est donc à la fois une maturation de la crise, des thématiques nouvelles qui entrent en considération. Vous avez raison de parler du déclassement, même si les classes populaires peuvent aussi vivre ce sentiment de déclassement, notamment lié à la globalisation. Et il y a cette espèce de au fond de thème, je sais pas comment le qualifier, je suis rarement satisfait des qualifications utilisées, parfois on dit identitaire, culturel, moi je parle de patrimoine immatériel, qui fait je dirais le couple avec le patrimoine matériel en crise, le niveau de vie. Le patrimoine immatériel, pour moi, c'est plutôt le style de vie qu'on sent menacé. C'est presque une crise existentielle très profonde. Et c'est pourquoi moi je qualifie ces nouveaux populismes actuels, très puissants, de populismes patrimoniaux, parce qu'ils ont réussi, eux, à prendre en charge ces deux formes de crise. Mais ce qu'il ne faut pas oublier de dire, donc autant le dire tout de suite dans cette réflexion sur le populisme européen, c'est que le populisme, il n'est pas une cause. Là, il est une conséquence d'une crise. Il y a eu des délitements qui l'ont précédé, qui l'ont libéré. Ce sont des forces qui sont dormantes, qui sont toujours présentes dans les sociétés, qui ne s'agrègent pas, qui ne se coagulent pas, et qui ne deviennent pas des forces si le système tient.
Alors les causes principales, justement, Dominique Reynier,
moi, en tout cas, je fais remonter. Alors tout ça, c'est toujours très très rapide pour des sujets très importants, mais moi, je considère qu'il y a une cause très importante qui est, ça peut paraître un peu curieux, mais qui est la chute du communisme. Parce que c'est une bonne nouvelle, c'était des tyrannies qui disparaissaient, mais c'était quand même aussi une mauvaise nouvelle, c'est difficile à dire, hein. Parce que on est rentré dans un monde, en fait, unidimensionnel, monoïdéiste, diraient les philosophes du 19e siècle. On est dans un ordre qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il n'y a plus le choix de toute façon.
Plus d'alternative.
Il n'y a plus d'alternative. Et c'est presque une façon de tuer même l'ordre régnant aujourd'hui. Parce que si c'est un ordre qui est là parce que c'est le seul, c'est même plus un ordre désiré par personne. Donc c'est une espèce de fin des choix qui touche alors terriblement les démocraties, où plus rien ne semble être aujourd'hui à portée de main de la volonté des électeurs. Il y a un deuxième cycle.
Vous voulez dire par là qu'il y a une lassitude, on aimerait... Voilà.
Non, c'est une insurrection même.
Parce mais il y a une lassitude qui fait que ça peut faire naître une insurrection.
Non, mais il y a une insurrection contre le fait qu'on ne peut plus choisir son destin. Ça, c'est quelque chose qui est très problématique si jamais on peut le valider. Il y a aussi le fait que la globalisation qui a suivi, à la fois l'OMC, Internet, pour aller très vite, a embarqué tout ça dans un grand mouvement d'intégration aux affaires publiques. Et puis, il y a un cycle qui vient presque au même moment que moi, je fais démarrer soit en 88, soit en 2001, mais de toute façon, c'est à peu près là. C'est la question de l'immigration et des conflits interculturels. 88, c'est les versets sataniques. Ça paraît pas grand-chose à ce moment-là. Enfin, si, ça paraît beaucoup, mais pour des gens qui sont peut-être peu nombreux. Et puis après, on a
Le livre de Salman Rushdie.
Voilà. Après, on
sait. La fatwa. Donc, il a
toutes les conséquences sur les traducteurs, les éditeurs, sur une série de drames qui a quand même commencé à poser problème. D'ailleurs, en Italie, Oriana Fallaci commence à être très célèbre pour des textes extrêmement violents sur ces sujets-là. Il y a là, et c'est très important le rôle d'Oriana Fallaci dans la fabrication de ce populisme patrimonial, en tout cas deux conséquences, avec la crise liée aux attentats de New York, qui est très importante, hein. Les conséquences sont immédiates. Par exemple, sur le populisme néerlandais, je peux vous dire, moi, il y a deux moteurs. Il y a un moteur lent, profond, qui vient des écrits de type Oriana Fallaci. Et puis, il y a une impulsion immédiate qui est dans septembre, où là, on voit presque tout de suite, on mesure, la fin de, voilà, quelque chose. Il se passe quelque chose aux Pays-Bas, c'est Pim Fortuyn. Et puis, voilà, c'est toute cette mécanique. Et Pim Fortuyn est l'inventeur d'un populisme qui s'est propagé quand même un peu partout aujourd'hui, cette double thématique matérielle immatérielle, ça a eu un grand succès.
Un populisme culturel.
Oui, moi oui, on peut dire ça aussi, il y a cette dimension. Oui.
Carrefour de l'Europe, on va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromitis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel,
Guillaume Meunier.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Quel est le point commun entre le Brexit au Royaume-Uni, les gilets jaunes en France et l'irruption de Matteo Salvini en Italie? Un même malaise face à une accélération de la marche d'un monde devenu incompréhensible, un sentiment de déclassement de la part d'une partie de la population qui se vit exclue de la mondialisation et une tentation de repli nationaliste et identitaire, on l'a déjà évoqué dans la première partie de cette émission. Quelle est la part de responsabilité de l'Europe dans cette lente dégradation de la perception d'un destin commun? On évoquera tout ça dans la deuxième partie. Je vous représente les invités qui ont pris place autour des micros de Carrefour de l'Europe dans le studio 42 de RFI. Gilles Wittgenstein, il est directeur de la fondation Jean Jaurès qui vient de coéditer avec les éditions de l'Aube Brève introduction au populisme, un ouvrage écrit par Cass Munde. Dominique Rédier, directeur de la fondation Fondapol, son dernier livre Les Nouveaux Populismes. Et puis je voudrais attirer votre attention sur une grande enquête qu'a menée la fondation Fondapol, Où va la démocratie, publiée chez Plon. Ça date de 2017. Et puis Giuliano D'Ampoli, politologue et essayiste italien, président du think tank Volta, et qui va sortir dans quelques semaines un livre très intéressant sur le sujet, les ingénieurs du chaos qui sont appelés les spin doctors, ceux qui sont derrière justement les hommes politiques. Alors avant de reprendre notre débat, nous allons faire comme toutes les semaines un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Daniel.
Vous avez retenu, Sacha, un article du quotidien britannique The Guardian qui explique que les plus pauvres des Brexiteurs, c'est-à-dire ceux qui ont voté pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne risquent d'être, on va dire, les dindons de la farce, en tout cas les premières victimes de ce feuilleton sans fin qu'on appelle le Brexit.
Oui, c'est un article qui résonne avec l'actualité de ces derniers jours. En fin de semaine dernière, le constructeur automobile Nissan a annoncé que ses nouveaux SUV X-Trail ne seraient pas construits à Sunderland, cette ville du nord-est de l'Angleterre, ouvrière, qui a voté à 61% pour quitter l'Europe. Ironie, se sont empressés de s'exclamer les commentateurs, parce que l'incertitude liée au Brexit a justement été citée par Nissan pour motiver sa décision. En gros, on vous l'avait bien dit. Le problème, nous dit The Guardian, c'est que deux ans après le référendum, le vote des Brexiteurs reste incompris et surtout celui des ouvriers et des classes populaires. Il paraît difficile pour des personnes aux revenus confortables de comprendre pourquoi des personnes qui galèrent choisiraient de leur plein gré d'être plus pauvres. On se dit, c'est pas normal, ils doivent être mal informés, désinformés, stupides ou naïfs. Et pourtant, pointe le journal de gauche, les électeurs aisés qui votent travaillistes, par exemple, font exactement la même chose. Ils acceptent d'être plus taxés et donc, au fond, d'agir contre leurs intérêts économique. Certes, ils ont plus les moyens de le faire, mais ils le font surtout parce qu'ils choisissent un projet de société. Ils pensent aux valeurs et au pays dans lequel ils veulent vivre. Eh bien, les ouvriers, c'est pareil. Penser le contraire, qu'ils abordent la politique différemment, c'est particulièrement condescendant, juge The Guardian. Infantiliser les gens au nom de leur propre bien-être est une erreur pour le moins contre-productive. Et dans le contexte du Brexit, c'est encore plus compliqué de ne pas tomber dans le panneau quand on sait que la sortie de l'UE affectera particulièrement les classes populaires et que dans le même temps, plus on est pauvre, plus on a de chances d'avoir voté en faveur du Brexit.
Et pourtant, Sacha, prévoir l'apocalypse économique n'a que peu d'impact auprès de cette catégorie de Brexiteurs.
Et bien, presque aucun, comme le dit The Guardian, ça n'a pas marché avant le référendum et ça ne marchera pas plus maintenant. Il ne faut pas oublier que les partisans du Brexit ont voté, c'est ce qui ressort des sondages depuis, pour que le Royaume-Uni regagne sa souveraineté, avec derrière une certaine idée de ce qu'a été le pays, sa gloire et sa grandeur passée. Pour l'auteur de l'article, tout ceci est basé sur une vision biaisée de l'histoire. Le Royaume-Uni n'a pas gagné la guerre tout seul, mais avec ses alliés, et l'Empire a été construit avec une grande dose de brutalité. Surtout, le pouvoir n'est pas à Bruxelles, soutient le chroniqueur, mais au sein du capital international. Et ça, on ne peut pas vraiment voter pour en sortir. Mais en l'absence d'un récit alternatif, il faut bien admettre et reconnaître que leur vision est puissante, beaucoup plus puissante qu'un manque de légumes frais en cas de sortie sans accord, et assez puissante même pour se permettre de souffrir pendant quelques temps. Notre défi, conclut The Guardian, n'est pas de se moquer, mais de bâtir un récit qui donne tout autant envie, un récit qui propose un futur meilleur pour tous.
Merci Sacha Mitchell, Courrier International, l'hebdo, courrierinternational.com, le site Gilles Wittgenstein. C'est intéressant quand même cette notion de cette part d'irrationnel, ce récit que les Britanniques s'inventent à travers le Brexit.
Mais il n'y a pas que les Britanniques, c'est l'art de la politique, c'est aussi un récit. Croire que la politique ce sont simplement des données et des chiffres et la pure rationalité, c'est une illusion dans laquelle les élites se sont parfois perdues. Le problème, c'est que
les populistes, et en l'occurrence les Brexiteurs, s'affranchissent du réel. Et qu'à un moment, le réel revient. Et où sont les populistes à ce moment-là? Eh ben, ils ont détalé comme des lapins parce que ils savent très bien faire la campagne, mais ils ne savent pas en gérer les résultats. Et on se retrouve dans une situation qui est absolument dramatique, où les Britanniques maintenant savent très bien ce qu'ils ne veulent pas. Le peuple a dit, on sort de l'Union européenne. Le Parlement britannique a dit, on ne vote pas le deal. On ne veut pas le no deal, on ne veut pas de report, on ne veut pas de second référendum. Donc il y a beaucoup de choses qu'ils ne veulent pas, mais plus de 2 ans après le vote, ils ne savent toujours pas dire ce qu'ils veulent. Sur le point qui concentre aujourd'hui les débats de la frontière irlandaise et du backstop, la seule chose qu'ils réussissent à dire, alors que l'on est à moins de 2 mois du Brexit, c'est qu'ils veulent un dispositif alternatif sans être capable encore de préciser lequel.
Alors c'est vrai qu'on faut garder en mémoire Nigel Farage, le leader de UKIP, qui démissionne le lendemain du vote du Brexit, ou David Cameron, le Premier ministre, qui part en sifflotant, en quittant, très joyeux d'ailleurs, semble-t-il, Downing Street. Dominique Rignier, vous aviez envie de réagir.
Oui, parce que et le patron de Dyson qui a fait la campagne du Leave et qui maintenant change de pays
qui va à Singapour.
Voilà. C'est un désastre et ça souligne 2 aspects très importants. Premièrement, le populisme est une force de destruction. C'est pas parce qu'on le dit que ça empêchera d'advenir, mais enfin c'est comme ça. C'est une force de destruction qui n'a pas de capacité à construire quelque chose et à tenir, précisément en effet, parce que c'est une forme de pensée magique. Et on ne peut qu'y croire puisque c'est la souveraineté du peuple. Et si je suis le peuple, je veux bien croire à ma propre souveraineté, donc c'est assez mécanique. Mais ça ouvre sur un second type de problème qu'il faut quand même poser, parce que ça peut par contre, ça peut être une réflexion que nous avons tous assez vite. C'est les populistes qui ont fait le Brexit ne sont pas arrivés au pouvoir. Ils ont détruit sans participer au pouvoir. Ils se sont défilés. Ils sont lamentables. Enfin, leur comportement est accablant. Quand on pense à la grandeur des élites britanniques, c'est fascinant de voir cela. Quand ils sont au pouvoir, ils échouent aussi. Et là, la question, elle devient intéressante. Savent-ils rendre le pouvoir quand ils échouent? Comme le font les forces politiques classiques, que nous avons vues, d'ailleurs trop souvent échouées, mais enfin qui au moins ont eu toujours cette grande vertu.
On connaît des alternances entre la gauche et la droite.
Ben oui, la grande vertu c'est de respecter les grandes règles démocratiques, et on a gouverné, on n'a pas convaincu, on se retire, on devient des opposants, et on a accompli là le grand principe démocratique. Les populistes, c'est pas sûr qu'ils soient en mesure de rendre le pouvoir, parce qu'au fond, leur lecture de l'échec, ça n'est pas qu'ils ont échoué, c'est qu'on les a empêchés de réussir. Et là, on commence à chercher qui m'empêche de réussir, quelles sont les minorités, les forces obscures, les réseaux qui m'empêchent de réussir, car il est évident que je réussirai, puisque je suis l'émanation de la volonté du peuple, qui, lui, ne peut pas faillir. Et là, ça devient... Il y a une mutation qui peut être à l'œuvre, et ces populistes au pouvoir deviennent assez vite des forces beaucoup plus autoritaristes qui même arrivent, c'est le cas de la Hongrie, à s'installer dans un pouvoir qui mute littéralement et qui commence à sortir et puis de plus en plus des fonctionnements normaux d'un régime libéral démocratique pour chercher à ne plus rendre le pouvoir.
Alors c'est vrai que le cas de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, est particulièrement intéressant parce que la constitution hongroise a évolué et Viktor Orban, il est pratiquement indétrônable aujourd'hui, en tout cas difficilement détrônable.
Par les urnes, ça devient compliqué, puisqu'il a touché, au système électoral dans de telles proportions qu'il est difficile qu'une majorité puisse lui être opposée. Il y a d'autres raisons qui font cela. Mais voilà, le principe fondamental le mécanisme qu'il faut observer, c'est les gouvernants touchent-ils à l'outil qui permet au peuple de changer de majorité.
Alors, puisqu'on évoque Viktor Orban, on va l'entendre sur le thème qui est celui de la posture de la citadelle assiégée, le dernier îlot de résistance face aux migrations, qui est évidemment un thème central chez Viktor Orban. C'est une position défendue par le Premier ministre hongrois pratiquement tous les jours.
Nous sommes les seuls qui résistent. Nous y sommes parvenus jusqu'ici et c'est pourquoi l'Europe centrale est la dernière zone dépourvue de migrants en Europe. C'est pourquoi la bataille pour l'avenir de l'Europe se joue ici. La seule chose qu'il nous faut ici, en Europe centrale, c'est que les Polonais, les Tchèques, les Slovaques, les Roumains et les Hongrois réunissent leurs forces. La seule chose qu'il nous faut, c'est découvrir la force que nous avons dans nos têtes, dans nos cœurs, et agir comme le font des nations frères.
és a büszke nemzetekhez méltó módon viselkedjünk.
Alors le thème des migrations chez les populistes est évidemment important. Le thème de la migration pour Viktor Orban et pour Matteo Salvini, évidemment, c'est pas tout à fait la même chose. Giuliano D'Ampoli.
Non, c'est-à-dire qu'ils ont des positions évidemment opposées, des intérêts opposés d'une certaine façon, parce que l'intérêt de l'Italie, ce serait quand même qu'il y ait un partage de responsabilités au niveau européen sur le thème des migrations, alors que évidemment les pays du groupe de Visegrad et Orban notamment, qui est un peu leur leader idéologique, y est contraire. Mais quand même, il ne faut pas exagérer, c'est-à-dire ce qui les unit est quand même plus fort que ce qui les sépare, parce que c'est vrai justement qu'ils ont probablement des intérêts opposés. Mais comme le disait Gilles Finkelstein, la politique, ce n'est pas que des intérêts et des calculs, c'est aussi des affects et beaucoup des passions. Et ça a été vraiment la force des populistes, d'une certaine façon, de comprendre ça et de comprendre que par rapport, par exemple, au Brexit, justement, là, même des gens de milieux défavorisés en difficulté auraient plutôt choisi de reprendre le contrôle. C'était le slogan du Brexit, taking back control, par rapport à un calcul, non, ça va mal se passer, il va y avoir des entreprises qui vont partir, etc. Et ça, par rapport à ça, effectivement, les populistes, et là, ils se rejoignent un peu tous, ils ont quand même une très grande force. Parce que si on résume un peu brutalement le malaise des gens qui est à la base du populisme, il y a quand même une sensation d'avoir perdu le contrôle sur les circonstances de leur vie, au niveau économique, au niveau plutôt un niveau culturel, etc. Et là, par rapport à ça, ce qu'ils font les national-populistes, si on peut les appeler de cette façon, ils disent ben écoutez, la solution c'est refermer, hein, on ferme, on revient à un système qui est plus contrôlable et plus petit, non, on va être les patrons chez nous et on va reprendre le contrôle de nos frontières, de notre monnaie, etc. Et par rapport à ça, les partisans, disons, de l'ouverture, après, qui sont, si vous voulez, un peu les partis traditionnels qui ont plus ou moins gouverné l'Europe au cours des dernières décennies, elles n'ont pas véritablement une réponse qui explique que c'est plutôt l'ouverture qui va permettre de garder le contrôle. Même si c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, probablement, la Grande-Bretagne a moins le contrôle de son destin qu'elle l'avait avant en étant au sein de l'Union européenne.
On a vu que dans l'adoption du budget italien, la marge de manœuvre, elle était finalement plus restreinte.
On le voit après. Mais d'un point de vue émotionnel, effectivement, cette réponse de dire on ferme, on reprend le contrôle, elle est quand même très forte. Et là, par rapport à ça, construire, disons, un antidote par rapport à cette pensée-là, qui ne soit pas purement rationnelle, mais qui soit aussi émotionnelle et capable, comme le disait Orban, de passer par le cerveau et le cœur, et ça, c'est vraiment pas facile du tout.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, quel est le point commun entre le Brexit, les Gilets jaunes ou Matteo Salvini? Eh bien, un mot commun, le populisme. Nous sommes avec Gilles Finkelstein, directeur de la Fondation Jean Jaurès, avec Dominique Régnier, directeur de la Fondation Fondopol, et avec Giuliano D'Ampoli, politologue et essayiste italien et président du think tank Volta. Gilles Finkelstein, est-ce que les mouvements populistes ont prospéré parce que les partis traditionnels ont abandonner un peu le socle politique et social? C'est un peu ce que disait Giuliano D'Ampoli il y a un instant. Je veux dire par là qu'il est plus facile de faire voter une loi sur le mariage pour tous, par exemple, que de faire baisser le chômage.
Oui, c'est une thèse couramment répandue que les partis traditionnels, et notamment la gauche, a peu à peu quitté le terrain social pour aller seulement sur le terrain sociétal. Si on reprend la généalogie du populisme et les grandes dates qu'évoquait Dominique Régnier tout à l'heure, je crois qu'il y a malgré tout une accélération qui est une accélération plus récente et qui est en écho avec ce que disait Giuliano. Une accélération sur les 10 dernières années, avec d'un côté la crise financière de 2008 et la révolution numérique. Et donc je crois qu'il y a aussi ces deux éléments qui sont des éléments plus récents, des éléments de ces 10 dernières années et qui sont un facteur d'accélération parce qu'on a malgré tout une accélération très forte dans les 10 dernières années.
Dominique Régnier, est-ce qu'on peut dire que cette montée du populisme qui est à à peu près partout en Europe. Bon, un ou deux pays n'ont pas de parti politique. Il y a le Portugal, par exemple. Est-ce qu'il y en a un autre? Je sais pas. Il y avait l'Espagne, mais
c'est fini
hein, depuis quelques semaines, Vox. Avec l'éruption de Vox. Éruption incroyable. Enfin, ils sont passés de 1 à 2% à 15% d'intention de vote vraiment en quelques semaines. Est-ce que cette fracture gauche-droite traditionnelle, elle est remise en question avec les montées du populisme?
Elle peut exister au sein du populisme. Il y a un populisme de gauche. Jean-Luc Mélenchon en est l'incarnation en France. Il y a un populisme de droite, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan aussi. Les nations européennes ont commis une faute énorme, quelque parfois elles s'obstinent à commettre encore, qui est d'avoir regardé avec mépris, voire en stigmatisant, la demande de frontières des Européens.
La frontière extérieure.
Je parle de frontière d'abord parce que c'est un concept. À l'intérieur de l'Europe, on circule librement. Je crois que les Européens veulent ça. Et quand on regarde, moi j'ai fait peut-être les calculs seraient actualisés, mais je crois que ce sont encore à peu près les mêmes. J'avais compté 132 élections législatives dans les différents pays successivement membres de l'Union européenne qui approuvaient ça. C'est massif, si vous voulez. Je veux dire, qui approuvaient des majorités pro-européennes. C'est très massif. Par contre, ce qui n'était pas dit dans le marché initial, c'est qu'il n'y aurait pas de frontières extérieures efficaces. Et entrer dans la globalisation sans avoir presque aucune frontière, ou le sentiment de ne pas en avoir, que ce soit sur le plan commercial, sur le plan de l'immigration, aucun territoire qui appartient aux Européens pour les protéger, les aider à se projeter aussi, parce que c'est ça aussi la frontière, ça vous aide à vous projeter dans un monde, c'est déraisonnable, et c'est le grand fagot qui a fabriqué le populisme, qui aujourd'hui peut tout emporter. Et là, je trouve qu'il y a une faute colossale. Et même si c'est pour...
Une faute ou une naïveté de la part des
Européens ? Non, c'est une faute, parce que aucun pays européen n'a voulu, par exemple, considérer que la question de l'immigration et de l'islam et des conflits interculturels était une question digne d'être discutée dans des termes modérés, dans des termes démocratiques. Il y a eu un double espace public, un espace public, si vous voulez, officiel, où l'on ne parle pas de ces questions-là, ou alors seuls les méchants en parlent, et puis un espace public officieux, mais qui concerne de plus en plus, je dirais, un nombre de personnes très important. Et là, les fautes se sont multipliées. Aucun pays en Europe, moi j'ai regardé, n'a fait là-dessus un débat correct, rien, nulle part. La suite de l'histoire qu'on pourrait poursuivre, 2004, l'affaire des caricatures, 2004, l'attentat en Espagne, 2005, l'attentat de Londres, etc., etc., mais ça marque profondément les esprits. Comment peut-on imaginer que ça ne traumatise pas les Européens? Ça met en question l'attachement au corpus libéral, le statut de la femme, égalité ou pas, la liberté de faire valoir son point de vue, de ne pas avoir de religion, d'en changer, de vivre la vie sexuelle que l'on veut vivre. Tout ça, ça a été, par exemple, ça, ce sont des éléments qui ont donné naissance au populisme néerlandais. Vous voyez, exactement ça. Nous sommes un pays tolérant, disait Pim Fortuyn, et si nous laissons rentrer plus de musulmans, nous cesserons de l'être parce que leur culture n'est plus tolérante. C'est très étrange comme raisonnement, en fait, très étrange. Pour défendre notre tolérance, il faut que nous fermions les Pays-Bas. Il disait, les Pays-Bas sont pleins désormais, et cela voulait dire pour lui trop de personnes qui ne partagent pas cet ethos de tolérance. On n'a pas considéré ça comme légitime, et je pense que si nous ne répondons pas positivement à la demande de frontières, nous aurons alors ce que les populistes ne sont pas encore, je veux dire les électeurs, nous aurons la vague nationaliste, on ne l'a pas encore en réalité. Même Orban vous dit dans ses discours, moi vous croyez que je suis nationaliste? Je peux aligner 20 000 soldats, pas plus, je peux rien. Il le dit dans ses discours comme ça, je peux rien en fait, j'ai besoin de l'Europe, j'ai besoin de l'OTAN, je peux rien. Donc cette réalité elle est dans l'esprit de tout le monde, en particulier des électeurs qui ne se font pas d'illusions là-dessus. Mais ils finiront par être nationalistes, et à mon avis la mort dans l'âme, et pour le pire, s'il n'y a pas une réponse à la demande de frontières et de puissance publique européenne.
Julien Lampoli, longtemps les Européens ont cru que leur système, leur organisation, était universelle et que par capillarité, avec l'augmentation du niveau de vie un peu partout dans le monde, eh bien la démocratie allait par capillarité s'imposer partout à la surface du globe. C'est pas le cas. Il y a plein de pays, la Russie, la Turquie, évidemment la Chine, sans parler de quelques remises en cause, par exemple au Brésil. Est-ce que c'est pas un traumatisme profond des Européens qui les met aujourd'hui très mal à l'aise?
Évidemment, c'est un discours très vaste, mais il y a un exemple qui me frappe au niveau de la force d'attraction des modèles illibéraux. C'est le même architecte qui est un architecte anglais qui s'appelle Norman Foster qui a construit le nouveau terminal de l'aéroport de Londres Heathrow et l'aéroport de Pékin. Et les illibéraux vont vous dire que à Londres ça a pris 20 ans faire le nouveau terminal alors qu'à Pékin ils ont tout fait en 3 ans. C'est un des très nombreux arguments, par exemple dans un pays comme l'Italie, où il y a un vrai problème d'efficacité de l'administration publique et de l'action publique, c'est un des nombreux ingrédients qui font l'attrait des systèmes illibéraux, et encore plus dans des réalités comme les pays du tiers-monde, où il y a même une politique qui est faite pour ça. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous naissez dans un pays africain défavorisé, vous avez traditionnellement une façon de regarder à une promotion et un futur meilleur, c'était de regarder vers l'Occident et vers l'Europe et vers les États-Unis. Aujourd'hui, c'est apprendre le chinois.
Dominique Régnier, une statistique dans le grande enquête que vous avez publiée en 2007, 33% des jeunes en Europe estiment qu'avoir un homme fort à la tête du pays sans se préoccuper des élections est plutôt une bonne chose.
Sans se préoccuper des élections, qui gouverne sans se préoccuper des élections ni du Parlement, comme ça c'est clair, la définition. Et quand on a fait cette enquête en Italie, c'était 41%, c'était avant le vote, donc on avait le vote contenu dans l'enquête d'une certaine manière, je veux dire. Alors là, il y a deux interprétations possibles. Je pourrais dire, il y en a une qui est de dire c'est une poussée d'une pensée autoritariste, c'est possible que ce soit le cas. C'est très fort dans la partie est de l'Europe où ça dépasse 50%. L'autre interprétation, elle est de dire ce qui a été dit à l'instant, qui est de considérer qu'au fond c'est la quête d'un pouvoir efficace. C'est la quête d'un pouvoir efficace, c'est-à-dire que il y a une sorte d'incompréhension, alors très paradoxale, hein, mais d'incompréhension, de lassitude à l'égard des procédures, des règles de consultation, de décision, de délibération, etc., qui sont celles dont nous nous sommes dotés les uns les autres, c'est ce que disait.
C'est l'illustration de Julien Napoli. Le même voilà. Aéroport, exactement. 4 ans et 20 ans.
Voilà. Mais alors, c'est paradoxal parce que, comme chacun le sait, si on n'applique pas ces règles qui font qu'on prend beaucoup de temps à construire quelque chose, ça se passe très très mal, pour les raisons inverses. Et donc, la cohérence du citoyen, elle est souvent prise en défaut. Hein. Il ne faut pas oublier cet aspect-là qui est très 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 puissant. Les citoyens sont souvent très incohérents ou contradictoires dans leurs attentes, ou ce qu'ils peuvent approuver en général, ils le contestent en particulier. Voilà, ou quand ils peuvent... Ouais, bon, ça, c'est un sujet qui sont souvent évoqués, mais c'est un en tout cas, cette poussée de la demande d'autorité est frappante. Elle est quand même cohérente avec la disqualification des chambres élues, avec le rejet massif des médias, sauf des réseaux sociaux, en particulier chez les jeunes. Alors ça, c'est un point impressionnant aussi, où on voit que leur mépris pour les médias classiques est très massif. Mais pas pour les médias en général, puisque les réseaux sociaux sont investis d'une vraie crédibilité. Et donc on a une série, je dirais, de mouvements d'opinion qui vont dans le même sens d'une déconstruction des mécanismes à la fois de limitation ou de contrôle du pouvoir et de représentation des volontés ou des préférences collectives.
On arrive au terme de cette émission. Gilles Finkelstein, vous allez avoir le mot de la fin. Des élections européennes en mai, alors quelle doit être la réponse des Européens convaincus qui pour autant ne sont pas des Eurobéas mais qui doivent être réalistes? Peut-être d'abord le rappel des valeurs européennes.
Moi je suis convaincu qu'il existe un modèle européen. un modèle européen spécifique qui est construit autour de la démocratie libérale, l'économie de marché régulée, la solidarité autour d'un système d'État-providence et les libertés individuelles. Et que ce modèle est propre à l'Europe. Pendant longtemps, on était dans une situation offensive où on allait, vous l'avez évoqué, on pensait que ce modèle allait se développer partout dans le monde. On est aujourd'hui dans une phase plus défensive et ça pose la question de la frontière qu'évoquait Dominique Reynier tout à l'heure, parce que la question de la frontière, fondamentalement une frontière, c'est ce qui marque l'identité de ce qui est dedans et par contrepoint de ce qui est dehors. Ça pose la question de la frontière économique. On a pendant longtemps une Europe qui s'est construite ou qui s'est pensée d'abord par rapport à elle-même. On le voit dans la décision qui a été rendue il y a quelques jours par la Commission européenne dans la fusion Alstom-Siemens, où pour l'essentiel, la réflexion était une réflexion par rapport à la concurrence interne sans prendre réellement en compte la dimension de la mondialisation. C'est vrai aussi pour les frontières physiques. On a beaucoup pensé Schengen comme libre circulation à l'intérieur sans penser réellement ce que ça voulait dire par rapport à l'extérieur. Je crois que un des défis, y compris pour les pro-européens dans lesquels je me range, c'est d'essayer de penser cette souveraineté européenne et pour éviter le repli nationaliste.
Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier avec Maria Afonso et Sacha Mitchell de Courrier International. Sur la page de l'émission RFI.fr, des infos sur nos invités pour écouter ce Carrefour de l'Europe et tous ceux qui l'ont précédé. Au choix, RFI.fr, rubrique émission ou l'appli RFI Pure Radio. On reste en contact via ces fameux réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Daniel Desescales, où que vous soyez, à Paris, Londres, Rome, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.